Bon, tout d'abord, merci d'être venu. C'est un moment qu'on avait envie de préparer pour partager des problématiques qui ont émergé à la suite d'une rencontre qu'a eu l'année dernière. C'était une conférence débat sur la malvoyance et la non-voyance qui était destinée aux étudiants, qui avait été organisée par des étudiants en IUT gestion des entreprises d'administration qui se posaient la question de comment, quand on est malvoyant ou non-voyant, on peut s'insérer dans la vie professionnelle. C'était la question qu'on s'était posée l'année dernière. Et puis cette année, j'ai eu envie de, en discutant à droite et à gauche, de poser une autre question qui est celle de l'accès à la culture. C'est clair que c'est un enjeu de poids parce que ça fait partie des choses qui nous font tous avancer. Et donc la problématique que je vous propose d'explorer pendant cet après-midi, c'est celle-là, c'est comment, quand on est malvoyant ou non-voyant, eh bien, on arrive à accéder au contenu culturel qui nous intéresse. Alors voilà comment va se dérouler cet après-midi. Alors je projette à l'écran quelque chose qui est difficilement visible, même pour ceux qui ont l'habitude de pouvoir lire ce genre de choses. On dira que l'université a des moyens qu'on voit ici développer au maximum de leur capacité. Bon, donc on commence aujourd'hui par une introduction, là, tout de suite. Pendant une petite heure, on va discuter ensemble de la déficience visuelle au sens large pour se remémorer les défis et puis les problématiques associées à ce handicap. Et puis, ce sera l'amorce pour continuer à discuter entre 17h et 19h sous forme de table ronde. Il y aura trois tables rondes en parallèle. L'une d'entre elles sera consacrée au métier du livre. Tout à l'heure, j'entrerai plus dans les détails pour expliciter les problématiques associées. Il y en a une autre qui sera plus concentrée sur l'audiodescription. En fait, quand on entend par audiodescription, on élargira un petit peu. C'est l'accès au spectacle vivant et puis à la vidéo, au film. Et la dernière, qu'on a intitulée patrimoine, qu'on peut résumer en tourisme, musée, où on se posera la question d'accéder à ces sites qui ouvrent à la culture encore d'une autre manière. Donc à chaque fois, une personne pour animer la discussion, et puis différents intervenants qui sont professionnels du domaine pour évoquer avec eux les enjeux, les difficultés, et puis l'état de l'art sur ces questions-là aujourd'hui. Ensuite, on prendra le temps de discuter sereinement autour d'un verre, parce que c'est toujours agréable. Et puis peut-être qu'on n'aura pas eu l'occasion d'aborder tous ensemble les sujets des autres tables rondes, par exemple. Et puis, entre 20h et 20h30, on vous proposera d'assister à la projection de films en audiodescription qui ont été extraits de la séance du festival du court-métrage de cette année. Peut-être vous savez, mais chaque année, il y a une séance en audiodescription qui est proposée par le court-métrage. Et donc, on est allé piocher dedans deux films qu'on vous propose de visionner et d'écouter dans l'amphi qui est juste à côté. Voilà. Donc ça, ce sera le déroulé de la journée. Et alors, pour commencer, puisque cet événement est porté notamment par le SUH, j'avais aujourd'hui envie d'inviter à la table, et c'est pour ça qu'elles sont là avec nous, Karen Dumas, qui est coordinatrice et chargée d'accompagnement au service Université Handicap, on dit SUH. Et puis Aurélie Basile, qui est la responsable du pôle déficience visuelle du SUH. Voilà un petit peu quelles sont leurs deux responsabilités. Alors, bonjour. Alors, je crois que vous parlez dans le micro parce que... Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose. On prend le soin de tout enregistrer parce que peut-être ça peut intéresser d'autres personnes. Et une des idées aussi, ce serait de le diffuser sur Radio Campus ensuite. Les tables rondes seront enregistrées par Radio Campus et dans les semaines à venir, elles seront diffusées sous forme d'une synthèse. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on parle en face des micros. Voilà. Donc, bonjour, pardon.
Bonjour.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, pour ceux qui ne connaissent pas le SUH, c'est quoi le SUH ?
Alors, ça marche. Alors, le SUH, en fait, c'est le service Université Handicap. Donc, on est un service qui appartient à l'Université Clermont-Auvergne. Et en fait, on est un service dédié à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Alors que ce soit les étudiants qui sont inscrits au sein de l'Université Clermont-Auvergne, mais également au sein des établissements associés, donc les écoles d'ingénieurs, Sigma, Vétagrosup et l'école d'architecture. Voilà.
Ça fait peut-être 30 ou 40 000 étudiants qui possiblement font partie de ce bassin. Vous accompagnez combien d'étudiants ?
Alors du coup, nous, chaque année, on tourne autour de 300 à 350 étudiants, sachant que depuis quelques années, on constate une augmentation en fait du nombre d'étudiants qui s'inscrivent au niveau de l'enseignement supérieur. Là, cette année, au jour d'aujourd'hui, on a 368 étudiants qui ont des aménagements, que ce soit des aménagements d'études ou d'examens.
Alors, vous venez de dire qu'ils sont inscrits. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas par défaut quand on rentre à l'université qu'on peut profiter de vos services ? Est-ce que tout le monde qui possiblement pourrait avoir besoin de ces services vous sollicite ?
Oui, en fait, à partir du moment où c'est que on est inscrit à l'université, qu'on a le statut d'étudiant, on peut disposer effectivement des services proposés par l'USUH. Après, de toute façon, si on ne peut pas accompagner la personne, puisqu'en fait, on a aussi des personnes qui sont inscrites mais qui n'ont pas le statut d'étudiante, qui sont par exemple en reprise d'études, qui ne sont pas du coup en formation initiale. Donc ça peut être les personnes qui sont soit en formation par alternance ou qui sont du coup en formation continue. Là, si ils ne dépendent pas de nous, qu'on ne peut pas les accompagner, on va les orienter du coup vers les services appropriés.
D'accord. Alors du coup, ça fait quand même pas mal d'étudiants. Vous êtes combien, vous, dans le service au quotidien pour travailler et les accompagner ?
Alors, on est un tout petit service. Donc en fait, là, vous avez 50% du service. Donc moi sur la coordination, Aurélie Basile sur le pôle déficience visuelle. Et on a deux collègues auxiliaires d'intégration qui, elles, sont chargées en fait d'accompagner les étudiants sur les sites universitaires. Donc en fait, elles accompagnent pour l'aide au déplacement, d'aller d'une salle à une autre, installer pendant les cours, faire du repérage aussi en début d'année sur les lieux universitaires, aller faire des démarches auprès des scolarités. Voilà, toutes ces questions-là, c'est les auxiliaires d'intégration qui le gèrent.
Alors, s'il y a une personne qui est chargée pleinement de l'accompagnement des malvoyants et non-voyants, ça veut dire que ça fait partie de votre public principal ?
Alors non, c'est pas le public principal, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'étudiants malvoyants ou non-voyants qui s'inscrivent parce qu'effectivement, on est la seule université sur le territoire français à avoir un pôle déficience visuelle. Donc du coup, on commence à être de plus en plus connu pour ce pôle déficience-là. Et du coup, ben, de bouche à oreille, en fait, les étudiants viennent à Clermont-Ferrand pour pouvoir bénéficier du service du pôle déficience visuelle.
On n'est pas la seule université Lyon, par exemple, une personne. Il y a d'autres universités.
On est bien positionné à Clermont-Ferrand, alors peut-être qu'on dira ça.
Merci, Valérie. C'est très gentil.
Alors, il y a différents profils, évidemment, d'étudiants, différents types d'accompagnement. C'est quoi, justement, ce que vous proposez pour les étudiants qui sont déficients visuels comme accompagnement, comme adaptation ? C'est quoi votre travail au quotidien ?
Alors, mon travail au quotidien, c'est d'être en contact avec l'équipe pédagogique pour répondre au mieux à leurs besoins, eux, mais aussi d'être en contact pratiquement permanent avec les étudiants pour coller au mieux à leurs demandes. Donc, ça va être des adaptations numériques, des dessins en relief, du braille intégral ou du braille abrégé, du gros caractère. Après, c'est de la production forcément en braille, mais pas que, il y a beaucoup de transmissions par voie numérique maintenant. C'est aussi du prêt de matériel, du matériel pour les examens, pour que les étudiants composent sur un matériel vierge. On prête aussi pour de courtes durées quand un étudiant a une panne de matériel. Voilà, avec des bloc-notes braille, des plages braille, des ordinateurs munis de synthèse vocale, des zones texte, voilà, des logiciels spécifiques.
Alors, on sait à l'université que parfois les moyens financiers ne sont pas à la hauteur des ambitions. Est-ce que c'est le cas pour ce service ? Est-ce que vous arrivez à couvrir l'ensemble des choses que vous aimeriez couvrir ?
Alors, non. Non, c'est. Faut tirer sur la corde au quotidien pour tout. C'est difficile. On fonctionne avec une enveloppe qui est donnée par le ministère, une enveloppe dédiée pour les étudiants en situation de handicap. Voilà, on a des estimations à faire en vue des étudiants qui peuvent arriver. Et en fonction de nos estimations, on reçoit une enveloppe et on doit faire avec cette enveloppe l'année.
Et évidemment, comme il y avait ce que vous avez décrit de l'adaptation, ça veut dire du temps humain.
Oui.
C'est pareil, en plus de l'enveloppe budgétaire, il y a l'enveloppe temps horaire de personnes capables de faire ce travail, qui sont formées sur ça. C'est vous aujourd'hui, vous êtes la seule ?
Alors, oui. Et enfin, j'ai une aide quand même de mes collègues qui sont auxiliaires, qui préparent les documents. Voilà. Après, bien sûr, pour la partie braille, il n'y a que moi qui vais pouvoir la faire. Donc cette année, par exemple, pour les documents scientifiques, il n'y a que moi qui peux fournir ces documents-là, ou sur des dessins en relief, des choses très précises. Il n'y a que moi pour faire ça.
Alors peut-être vous travaillez en partenariat avec l'ABU aussi, la bibliothèque universitaire ?
Alors oui, on est en lien avec des référents handicap par bibliothèque, ou la référente handicap au sein du réseau BCU avec Madame Françoise Fontaine-Martinelli. Et donc oui, on échange quand il le faut sur différentes questions d'accessibilité ou de problèmes, par exemple, pour la dernièrement pour un étudiant qui n'arrivait pas à consulter des documents numériques, voilà.
Et là, on vient de parler beaucoup d'accompagnement pour les étudiants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnel malvoyant ou non-voyant ou c'est pas dans votre périmètre ?
Alors, si, il y a des, il y a même des enseignants, au moins une enseignante de mémoire qui est déficiente visuelle. Après, nous, on ne s'occupe pas des personnels. Il y a une personne, un personnel dédié à l'université, Mégane Carnal, qui s'occupe des personnels en situation de handicap.
Et à l'inverse, vous expliquez un petit peu comment adapter le contenu, c'est vous qui faites le travail. Mais évidemment, quand un étudiant est inscrit dans une formation et qu'il y a beaucoup d'enseignants qui interviennent, si eux, ils ne savent pas comment ils doivent préparer les documents, peut-être ça vous fait du travail en plus. Alors, est-ce que vous avez le moyen de contacter les enseignants pour les aider à mieux travailler conjointement avec vous ou vous êtes séparés dans votre monde ?
Ah non, on échange régulièrement avec les enseignants. Souvent, à l'arrivée des étudiants... Souvent, l'étudiant déficient visuel interroge beaucoup l'équipe enseignante. Ils ne savent jamais comment se comporter, comment accueillir l'étudiant. Et donc, en amont, ils viennent nous rencontrer pour savoir comment se comporter, comment l'accueillir dans de bonnes conditions. Et après, au fil du cursus universitaire de l'étudiant, on reste en contact. Et moi-même, si je rencontre des difficultés pour adapter, parce que je ne suis pas spécialiste de telle matière, l'enseignant va m'aiguiller, va me dire que telle chose, ça passera, telle chose, il faut que je garde cette information-là, que celle-ci, je peux la zapper, etc. Et donc, de la même façon, on est en lien pour même le suivi de l'étudiant, s'il y a des soucis, si l'enseignant ressent que l'étudiant ne va pas bien, ou il y a des échanges comme ça.
D'accord, alors on imagine qu'il y a des défis, évidemment, parce que, par exemple, les matières scientifiques, il y a des notations qui sont spécifiques, en l'occurrence. Et là, il faut utiliser la notation, si c'est du braille, par exemple, adapté.
Oui, tout à fait. C'est beaucoup de temps passé sur les documents.
Alors, on vient de comprendre un petit peu les défis donc associés aux activités du SUH. Est-ce que parmi vous, ici, présents dans l'amphi, vous avez des questions à nos deux représentantes de services qui aident au quotidien plus de 350 personnes, c'est ça ? Je ne sais pas, je peux me déplacer et tendre le micro si quelqu'un a une question.
Après, cette année, pour les étudiants déficients visuels, ils sont une vingtaine. Et comme le disait Karen tout à l'heure, pour les déficients visuels, ça augmente un petit peu tous les ans. Voilà.
Est-ce que l'arrivée de la loi de 2005, elle a déterminé, un petit peu changé des choses ? Est-ce que le service existait avant ?
Non.
C'est clairement la création, enfin la loi qui a impliqué pour les universités de prendre en charge les personnes en situation de handicap.
C'est ça.
Okay. Moi j'ai quand même une question, c'est y a une grande diversité d'adaptations, que ce soit pour les malvoyants avec du gros caractère ou les non-voyants avec du braille. C'est une très grosse hétérogénéité. Ça veut dire qu'il y a des années où vous vous concentrez quasiment sur du braille ou tous les ans vous avez le large spectre des adaptations à maîtriser et à assumer ?
Ça dépend des années. Cette année, j'ai plus d'étudiants qui ont besoin de braille que de gros caractères. L'année dernière, c'était l'inverse.
C'est variable. Alors, juste à côté de vous, y a deux personnes qui sont assises. Il y a Laurence Gaston, qui est une ancienne étudiante de l'université. Vous étiez étudiante en quel domaine ?
J'ai étudié en philosophie, j'ai suivi le cursus de licence, première année, deuxième année, troisième année. Et effectivement, j'ai bénéficié du soutien du pôle déficience visuelle et nous avons été, Aurélie, Basile et moi-même, en contact quasi quotidien. Et je me souviens à l'époque l'avoir sollicité très régulièrement pour moult ouvrages philosophiques nécessaire au suivi des études et c'était voilà, ça a été parfois des courses poursuites avant les dates d'examen, disposer de l'ouvrage complet. J'ai compris combien elle manquait de bras et d'assistants pour pouvoir fournir tout cela. Ceci dit, il y a eu aussi un changement dans la loi qui a permis aussi d'accéder aux éditions numériques. C'était en 2012.
En 2009.
Ouais, et donc il y a un agrément qui a été obtenu à l'université. Et moi, je sais avoir ressenti un mieux à ce moment-là, puisque les documents que j'utilisais très souvent numériques bah, arrivaient en temps et heure pour que je puisse les consulter avant de diverses dissertations et autres examens.
Alors, est-ce que tous les enseignants, ils fournissent une version électronique de leur support à adapter, ou il y en a qui fournissent encore des notes manuscrites ou des papiers imprimés qu'on doit déchiffrer puis ensuite transcrire ?
Alors, la majorité fournissent des documents numériques. J'en ai encore quelques-uns qui font passer en courrier interne des photocopies ou alors des découpages de plusieurs photocopies collées sur un papier A4. Même ça, ils veulent pas le scanner, mais... maintenant, les documents en ligne sont pratiquement de rigueur, mais souvent j'ai des documents, des photocopies scannées, même déposées sur les ENT des étudiants. Donc c'est bien, mais ils ne sont pas accessibles pour les étudiants déficients visuels, malvoyants nombreux.
Alors heureusement, il y a l'outil informatique qui permet de faire pas mal de choses. Est-ce que vous utilisez ce qu'on appelle l'OCR ?
Oui.
Alors vous pouvez peut-être expliquer pour les gens qui ne connaissent pas le mécanisme à quoi ça sert ?
C'est un logiciel de reconnaissance de caractères. On scanne le document, on lance le logiciel et on obtient un document plus ou moins propre, entre guillemets, à retravailler pour l'adaptation.
Alors justement, en parlant d'informatique, juste ensuite, à côté de Laurence Gaston, eh bien, il y a Paul Moreau. Bonjour Paul.
Bonjour.
Vous êtes étudiant à l'UT en informatique, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et vous-même, vous profitez des adaptations et des services du SUH ou ça vous est pas utile ?
Alors, la première année, si, j'ai été assez en contact avec eux. Mais maintenant, ça fait un moment que je les ai pas contactés. Parce que, en fait, à l'IUT, moi, dès la première année, tous mes enseignants ont voulu tous vraiment s'adapter, savoir comment je fonctionnais. Et donc, cette année, j'ai pas eu besoin de contacter le SUH pour adaptation ou quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois, mes enseignants avaient tout le temps quelque chose, soit numérique, un document numérique, soit en agrandi. Et des fois même, ils me passaient l'un, ils me demandaient si je voulais le deuxième, et ils me le fournissaient. Donc cette année, j'ai eu aucun problème au niveau adaptation, parce qu'on a tout réglé dès la première année.
C'est peut-être parce que vous êtes dans un département d'informatique aussi et que les gens ils sont sensibilisés à cette question du tout numérique.
C'est aussi que à l'IUT, par rapport à un cursus en fac normal, on est beaucoup moins, on est en groupe réduit et les enseignants sont plus proches des élèves. C'est en fait l'IUT, c'est un peu à mi-chemin entre le lycée et la fac.
Donc ça veut dire qu'ils sont là présents au quotidien et qu'ils sont sensibilisés à votre situation.
Oui.
Et alors, Laurence Gaston, vous, c'était pas le cas de vos enseignants ?
Si, et surtout qu'en philosophie, on peut considérer qu'on est aussi un petit groupe d'étudiants. En plus, les promotions sont d'une vingtaine de personnes arrivées en master. Donc, nous devons être entre 30 et 40 en première année, à peu près. Et effectivement, les enseignants ont été, dès la première année, très attentifs. Et c'est d'ailleurs le directeur du département à l'époque, Alain Petit, qui m'a, dès la réunion de rentrée, orienté vers l'existence du pôle déficient visuel au SUH. Puisque ma question était, comment pensez-vous que je puisse suivre les cours ? Je prends note avec un ordinateur, je suis en mesure de prendre des notes. Mais comment pourrais-je accéder aux documents, aux ouvrages qui seront impliqués dans les études ? Et voilà, ça, déjà j'ai eu une information très rapidement pour me tourner vers le pôle déficient visuel. Et puis il m'a aussi mis en contact avec une autre enseignante qui elle-même travaille avec un collègue déficient visuel à Paris. Et le connaissant, et lui-même avait déjà... considérablement d'agrandir sa bibliothèque numérique personnelle. Et j'ai pu solliciter, par l'intermédiaire d'une de mes enseignantes, cette personne pour bénéficier de sa bibliothèque numérique.
Donc cette question d'accès aux bibliothèques numériques, c'est un enjeu clairement identifié. C'est quelque chose qu'on évoque aussi, peut-être on aura le temps d'en parler sur la table ronde métier du livre, qu'on évoque pour les personnes qui sont voyantes, qui n'ont pas de déficience visuelle, parce que ça permet de se déplacer avec un e-book et puis d'avoir un contenu. Mais effectivement, c'est clairement une solution très utile pour les personnes déficientes visuelles. OSUH, c'est uniquement par la collaboration avec la bibliothèque universitaire que vous proposez des livres numériques, ou alors vous avez, vous aussi, un budget pour faire l'acquisition d'ouvrages numériques ?
Non.
Aucun budget. D'accord. Ça ne fait pas partie de votre... Alors peut-être pour finir avec le SUH, puis ensuite on va prendre le temps de discuter un petit peu du quotidien, parce qu'il y a aussi un aspect qui est important, c'est le quotidien de la déficience visuelle. Depuis 1er janvier 2017, les deux universités ont fusionné. Jusqu'à présent, le SUH était un service interuniversitaire. Aujourd'hui, ça devient un service universitaire. Est-ce que ça change ou ça va changer des choses pour le fonctionnement ? Est-ce qu'on le sait déjà ou est-ce qu'on attend de savoir ?
Effectivement, on était déjà un service qui fonctionnait sur les deux universités. Donc, en fait, nous, notre fonctionnement, il ne change pas, puisqu'en fait, le public reste le même, que ce soit les étudiants de l'Université d'Auvergne ou de l'Université Blaise Pascal. Aujourd'hui, on les accompagne de la même façon, avec les mêmes dispositifs. Donc, pour nous, même si les choses ne sont pas encore clairement posées non plus, je ne pense pas qu'il y ait des grands changements.
Jusqu'à présent, votre budget, il passait pas du tout par les universités, il passait directement depuis le ministère ?
Oui, on a uniquement une enveloppe ministérielle.
Voilà. Et donc, ce sera encore le cas
Alors là, on n'a pas d'informations sur cette donnée-là, mais je pense que ça ne va pas changer non plus.
Et avec la fusion des différents établissements, il n'y a pas eu d'élargissement de votre périmètre d'étudiants que vous accompagnez ?
Avant, on n'avait pas l'école d'architecture. L'école d'architecture a intégré du coup le groupe d'associés il y a 2 ans maintenant, il me semble. Voilà. C'était il y a 2 ans. Avant, on ne s'occupait pas du tout de ces étudiants-là, même si de toute façon, les étudiants qu'on accompagne sont principalement inscrits à l'université. Les écoles d'ingénieurs, elles sont assez autonomes et elles font très peu appel à nous, en fait. Quand elles ont des situations de handicap, qu'il y a des aménagements à mettre en place, c'est souvent qu'en fait, on n'est même pas au courant parce qu'elles le gèrent en interne et du coup, elles ne nous sollicitent pas.
Peut-être qu'elles ne savent pas que vous existez.
Si, si, elles nous connaissent, mais en fait, par exemple, à Vétagrossup, ils ont un budget qui est alloué au handicap. Donc en fait, quand ils ont besoin d'aménagement, ou par exemple, on avait eu une année où il y avait besoin de financer un interprète en langue des signes française, en fait, ils avaient le budget pour le financer, donc ils n'avaient pas fait appel à nous. Ils avaient directement procédé à la démarche de recruter quelqu'un par eux-mêmes.
Et alors, justement, vous parliez d'école d'archi. Est-ce que vous accompagnez aujourd'hui ou depuis qu'ils sont entrés dans le giron des universités,
non,
quelqu'un là-bas ?
On n'accompagne personne pour l'instant. On a eu quelques contacts, mais pas pour des situations précises, en fait.
Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette discussion. Et puis, je vous profite de l'occasion pour vous remercier du soutien que vous avez apporté à cette journée.
Nous, on en profite pour vous remercier pour l'organisation de cet après-midi.
J'ai une flexion généralisée. Donc, juste à côté de vous, donc, comme je disais à l'instant, il y a deux personnes qui ont bénéficié ou qui bénéficient des services du SEH. Alors peut-être pour mieux comprendre ce qu'est la réalité d'une personne déficiente visuelle, eh bien, je vais commencer par une première question pour vous. Et puis en fait, l'idée, c'est que les personnes qui sont dans la salle vous connaissent un petit peu mieux. Alors la première question que j'ai envie de vous décrire, c'est comment décririez-vous votre handicap visuel ? Peut-être Laurence pour commencer ?
Ouais, pourquoi pas. Alors, mon handicap visuel, le décrire, c'est déjà la possibilité que j'ai de communiquer à ce sujet avec les personnes qui, bien souvent, peuvent être curieuses de ce que ça peut représenter, parce que généralement, on imagine peu ou pas, en tous les cas souvent très mal, ce que ça peut représenter. Et pour la déficience visuelle, c'est surtout une énorme différence. Différence parce que elle implique tellement de choses que ça commence dans tous les actes de la vie quotidienne, que c'est très 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 très... Ça, c'est très vaste à aborder d'une façon générale et qui pourrait rentrer dans des détails beaucoup plus précis. Oui, tout simplement, on peut aborder différents points. La vie quotidienne, les déplacements. On a abordé un moment avec le service université handicap, les études, la possibilité de s'inscrire dans une vie d'étudiant, scolaire, d'étudiant, de travail. Donc c'est une différence pour tous les, dans tous les moments de la vie. Et, déjà parce qu'on ne va pas partager les mêmes choses, mais la même vision du monde, tout simplement, si je peux me permettre cette expression. Nous sommes dans le même monde, mais avec une vision complètement différente les uns des autres de ce que peut être déjà sa représentation. Alors, ça commence par, je me lève le matin, je vais préparer mon petit déjeuner, et bien, il va falloir que je commence par identifier une brique de lait, il va falloir que j'identifie le paquet qui contient une poudre soluble, est-ce que c'est le café, est-ce que c'est le cacao. Donc, je ne vais pas le faire comme tout le monde, évidemment, et chaque geste, chaque moment de la journée va passer par une adaptation ou un geste qui sera effectué au fur du temps de façon très naturelle certainement, mais abordé non pas par la vue, mais par d'autres sens. Et c'est l'implication de tous les autres sens qui va être sollicitée quand on perd la vue, ce qui est mon cas, qui va permettre de soit compenser complètement ou en grande partie ce que la vue permet à l'ensemble des personnes qui voient.
Et est-ce qu'il ne faut pas aussi un petit peu d'organisation ?
Ah ! Alors ça, l'organisation, mais aussi un sens auquel on ne pense pas, mais je l'évoquais il n'y a pas si longtemps avec mon fils, la proprioception ou le souvenir, la mémoire qu'on peut avoir des gestes, cette mémoire des mouvements. Si je me souviens d'un geste, comme tout simplement trouver le gobelet qui est là, si je le pose là, le geste que je viens d'effectuer, je peux le reproduire parce que je m'en souviens. Ces gestes-là, ça fait partie d'une possibilité de structurer et d'organiser la vie et le quotidien. Ranger ses affaires, se souvenir d'où elles sont, les retrouver, puisque si je ne les vois pas, il va falloir que je me souvienne de ce que j'en ai fait. Alors, la difficulté, c'est de partager sa vie avec d'autres personnes. Parce que quand on a un enfant, il va laisser les choses partout traîner. Il est capable de ne pas penser à les ranger. On imagine bien une chambre en France, c'est toujours un peu le bazar. Mais aussi, comment je vais pouvoir partager un espace avec d'autres personnes. Donc là, ça complique un petit peu les choses. Ça demande effectivement de communiquer. Je pense que ça aussi, c'est un atout qui permet beaucoup de choses.
Vous ne partagez pas le même type de déficience visuelle que celui de Laurence. Est-ce que vous pourriez le décrire pour montrer que ce qu'on va évoquer ici, qu'il y a une grande diversité dans ce qu'on appelle la déficience visuelle ?
Alors, le décrire, ça irait très vite, parce que, en fait, comme je suis malvoyant de naissance, pour moi, le décrire, c'est en fait c'est ma vie quotidienne, quoi. C'est comme vous qui voyez bien. C'est votre vie quotidienne. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est avoir une déficience visuelle. Moi, je peux pas imaginer ce que c'est de bien voir, vu que je n'ai jamais en fait bien vu de ma vie. Décrire. Après, au quotidien, vous expliquez. Ici, il y a des choses quand même qui sont différentes que j'ai appris par ma famille, par mes amis. En allant même voir l'ophtalmo, tout ça, c'est par exemple, je serais plus vite fatigué qu'une personne normale entre guillemets, parce que je vais avoir une fatigue visuelle qui va être très importante, parce que même si je ne vois pas énormément, je me sers quand même beaucoup de ma vue. Donc ça me fait forcer sur mes yeux et je suis assez vite fatigué après ça. Des fois j'ai même ça fait assez longtemps que c'est pas arrivé, mais quand je suis resté assez longtemps sur mon ordinateur pour par exemple pour un développement, pour l'IUT, il m'est arrivé d'avoir des mal de tête vraiment assez forts, au point de... Bah, en fait, c'était vraiment très intense. Je me suis couché dans mon lit et je pouvais plus bouger tellement j'avais mal à la tête. Mais ça m'est arrivé que très rarement, parce qu'en général, je fais quand même attention. Et puis après, d'autres moments où je peux être... où je me fatigue plus vite, c'est par exemple quand j'arrive dans un endroit que je ne connais pas du tout, je découvre, et donc ça me fait... je suis assez rapidement fatigué, alors que par exemple un endroit comme à Clermont, quand je sors, je vais à Jaude ou quoi que ce soit, je ne serai pas fatigué parce que c'est un endroit que je connais, que j'ai en mémoire, je connais les rues, je connais... en fait, je connais tout mon environnement, donc je n'aurai pas à faire spécialement attention, en fait... où je suis, où je marche, où je mets les pieds, voilà.
Ça veut dire qu'il faut s'économiser ? Ou économiser sa vue, je veux dire, pour pouvoir ne pas atteindre le moment où on souffre de ça ?
À s'économiser, il faut faire attention. Par exemple, je sais que je ne vais pas passer 10 heures de suite sur un écran, parce que ça va me... Enfin, oui, 10 heures tout le monde, mais je passerai moins de temps sur un écran que quelqu'un qui a une vue correcte, parce que sinon je sais très bien qu'ensuite je serai énormément fatigué et je pourrais pas faire grand chose.
Et alors, est-ce que vous utilisez des moyens ou des outils pour faciliter justement le quotidien qui sont spécifiques à votre handicap?
Oui, donc j'ai une loupe électronique qui me permet d'agrandir quand j'ai un document, par exemple administratif ou quoi que ce soit. C'est pas des documents qui sont adaptés, donc j'ai ma loupe électronique. J'ai une caméra également que je peux brancher sur mon ordinateur portable qui me permet de visualiser ce document aussi. Donc j'ai un ordinateur portable. J'ai une tablette qui me permet par exemple à l'IUT, quand un enseignant écrit quelque chose au tableau, je peux prendre en photo et ensuite sur la tablette je peux zoomer. Et j'ai également ZoomText, qui est un logiciel qu'on peut installer sous Windows. Je précise Windows parce qu'à l'IUT, on travaille aussi sous Linux, qui est un autre système d'exploitation. Et là, j'ai pas Enfin, si, il y a bien un équivalent de la loupe qu'on a sous Windows de base. Mais sinon, il n'y a pas autre chose vraiment. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui existe sous ce système d'exploitation. Donc, des fois, je peux bien agrandir. On peut bien agrandir le texte, mais sinon agrandir toutes les icônes et agrandir les icônes par exemple d'un logiciel ou quoi que ce soit, je demande où est telle icône, et ensuite comme j'ai une assez bonne mémoire, je suis obligé de m'en rappeler, quoi. Donc ça m'oblige à travailler ma mémoire. Ça, c'est depuis que je suis enfant que je la travaille, et voilà.
Alors là, vous venez d'évoquer quelque chose, le fait de solliciter quelqu'un parce qu'on a besoin de réaliser une tâche. Laurence Gaston aussi, c'est quelque chose que vous devez faire au quotidien, solliciter une autre personne pour réaliser quelque chose?
Oui, en effet, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et je pense aussi que c'est quelque chose auquel j'ai été amenée à faire face et à aller au-devant de cette... ce qui est devenu finalement, ce qui peut être une nécessité ou pas. Mais ça peut être une difficulté aussi d'aller demander. À un moment donné, on a envie de faire par soi-même. Et c'est souvent, soit par fierté ou je ne sais quoi, ou souci d'autonomie. D'aucuns diraient que je n'en ai pas. je suis vraiment en quête d'autonomie depuis que j'ai perdu la vue. Mais... je reconnais que dans la vie, je pense qu'il y a des tas de choses qui sont compliquées. Ça a été compliqué pour moi de faire face à ce handicap, mais j'ai voulu en faire quelque chose d'assez léger, parce que ce qui comptait, c'est de pouvoir faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Bon, à un moment donné, ça a été faire des études, ça a été aussi d'élever mon fils. Donc à un moment donné, pour que ça ne soit pas une corvée et que ça devienne... quelque chose d'assez agréable et qui se passe dans les meilleures conditions, effectivement, j'ai appris et j'ai pris confiance dans le fait de demander à quelqu'un une aide. Alors, chez moi, j'ai une aide à la maison. Une personne vient m'aider environ 4 à 5 heures par semaine pour m'aider à faire ce que je ne fais pas, les tâches ménagères, parfaitement. Parce que si je peux entretenir ma maison, effectivement, nettoyer, rendre l'endroit à peu près viable, ben, y a des détails que je ne verrai pas et que je laisse soin à les personnes qui voient de faire mieux que moi. Des traces sur le frigo que j'aurais ignoré, eh bien, voilà, on passe un coup sur la porte, je n'ai pas vu. Mais c'est bien que ce soit fait, et je préfère, pour moi, c'est important que ce soit donc, par le biais d'une aide, que ça puisse se faire. Pour arriver ici, il y avait des travaux dans le bas du carrefour, en bas du jardin Lecoq, et je me suis dit, oh, d'ici, j'entends qu'il va y avoir une gêne importante, une gêne auditive importante. Et en avançant, j'entends un groupe de personnes qui discutaient. Et bien, je ne suis pas compliqué la vie. Au contraire, justement, dans cette démarche de me la faciliter, j'ai abordé ce groupe de personnes en leur demandant s'ils pouvaient m'aider à traverser. Alors que j'ai le petit bip qui déclenche les feux sonores. Une autre aide, cette fois technique. Un boîtier qui permet de faire biper les feux et annoncer la phase rouge. Mais dans certains cas, avec des bruits environnants trop importants, j'ai préféré l'aide humaine, qui dans la plupart des cas, je trouve, est quand même plus sympathique. Puis ça permet d'échanger sur le handicap, ça permet de dire qu'il y a une conférence à l'université de lettres, etc.
Vous avez parlé, quand vous parliez d'aide technique, que de solutions qui sont à base d'électronique ou d'informatique. Ça veut dire qu'avant les années 90, il n'y avait pas de solution satisfaisante. Alors bien sûr, vous êtes trop jeune l'un et l'autre pour en parler. Mais
Merci. Non, c'est mon handicap qui est trop jeune.
Et de votre point de vue, est-ce que on a l'impression, en vous entendant, que c'est avant ça, il y avait quoi?
Ben avant ça, je pense qu'il y a des tas de personnes qui ont réussi à faire des études, et il se trouve que je suis à peu près sûr que dans la salle, certaines personnes ont pu étudier avant d'utiliser ces outils, et que le relais humain et les aides, les premières aides matérielles qui existaient, ont quand même permis à des gens d'avoir une vie tout à fait acceptable. Mais là, du coup, je renvoie la balle à la salle.
Alors, est-ce que quelqu'un voudrait témoigner?
Pour mon cas, j'ai perdu la vue en 1992, j'avais 24 ans. Je peux vous assurer que quand je suis arrivée à Clermont-Ferrand pour faire des études liées à l'informatique, eh ben, c'était pas encore ça. On avait des logiciels sous Windows qui n'étaient pas toujours suivis par les adaptations et les outils braille qu'on nous mettait à notre disposition. Je me rappelle avoir travaillé sur les bases de données, et il était impossible à ce moment-là de repérer les liens. Lorsqu'on connaît tous maintenant, puisqu'on a Internet, et puis qu'un lien, c'est quelque chose de complètement identifié, identifiable sur nos ordinateurs quand ils sont adaptés. Mais, à l'époque, c'était encore quelque chose qui était à paramétrer dans les outils qu'on mettait à notre disposition. Et repérer les liens hypertextes, c'était un grand défi pour moi qui ne voyais pas du tout. Je pense que un collègue qui avait encore un tout petit peu de vision, qui travaillait avec moi, avait un écran très très agrandi, une souris très très grosse qui pouvait déplacer son écran, et arrivait avec grand mal lui aussi à les repérer. Donc l'informatique aussi a évolué, et certes ça apporte beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ai répondu très récemment à une enquête sur les produits de la vie quotidienne électroménager. Alors une cafetière, si ça pose pas de problème, je pense à la plupart d'entre nous, un lave-linge, un lave-vaisselle, ou bien même la télécommande d'un téléviseur, il faut déjà s'y mettre un petit peu.
Alors est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans la salle, peut-être, pour compléter ces propos ou pour aller un peu plus loin? Je vais monter avec le micro.
Oui, bonjour. Je suis formateur pour des futurs professeurs d'école primaire, de collège et de lycée. Alors ma question, elle sera un peu sur l'école. C'est-à-dire que le sujet, hein, c'est bien la question de l'accessibilité à la culture, mais ce qui préoccupe à l'école, c'est l'accessibilité au savoir, à la connaissance. J'aimerais savoir, de votre expérience, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre parcours pour permettre cette accessibilité et quelles sont les choses que vous attendez d'un professeur des écoles, d'un professeur de lycée, voire d'un professeur d'université pour permettre cette accessibilité. Vous pouvez en profiter pour le dire parce que j'interviens directement sur la formation des professeurs, donc je me ferai un plaisir de le transmettre directement aux personnes concernées.
Je vais vous répondre parce que bon, comme je l'ai depuis ma naissance, mon problème de vue, il faut savoir que j'ai suivi un cursus scolaire tout à fait normal. J'ai pas été dans une école spéciale ou quoi que ce soit. J'ai suivi vraiment un cursus tout à fait normal. À l'école, en maternelle et à l'école primaire, en ce qui me concerne en tout cas, mes enseignants, même jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucun problème avec. À l'école primaire, mes parents avaient tout de suite, et puis j'étais accompagné aussi, il y avait un service qui me suivait. On a tout de suite expliqué comment on devait s'organiser. Donc j'avais des cahiers qui étaient adaptés avec des lignes, des grosses lignes vraiment où je pouvais écrire dessus. Mes enseignants à l'école primaire me faisaient également des agrandissements, mais j'avais surtout un appareil qui m'a beaucoup servi. C'est ce qu'on appelle un téléagrandisseur. C'est comme un gros écran en fait où vous pouvez mettre une feuille dessous et ça l'agrandit à l'écran. Vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez changer les couleurs selon si la personne voit mieux certaines couleurs ou pas. Je vous parle de ça, c'est mon expérience personnelle, hein, c'est ce que j'ai vécu vraiment à l'école primaire. Je peux pas vous en dire plus parce que pour moi en fait c'était quelque chose de normal.
Ouais. Je pense que ce mot normal, j'allais l'aborder également. En arrivant à l'université, j'ai eu une attention certes assez particulière et singulière pour les adaptations et les accès aux documents dont j'avais besoin, mais je pense que voilà, il y a eu une relation, je dirais, normale avec une personne qui vient étudier. Pas forcément de différence faite sur la façon d'être évalué, des adaptations parce que j'ai bénéficié d'un tiers temps, être attentif à que les enseignants que j'ai eu autour de moi aient été attentifs au fait que je sois une personne qui vienne étudier, ben, je pense que c'est la plus belle des choses que j'ai pu recevoir. Et ce qui a permis un échange aussi très agréable. Certes, on a des différences pour aborder les contenus, mais au final, on n'a pas besoin de nous parler plus fort pour qu'on comprenne. Ça, je le dis avec un clin d'œil, parce que souvent, quand on s'adresse à une personne qui sent le visuel, c'est quand même mon cas, donc il y a des tas de moments où les personnes ont besoin de me parler plus fort. Mais non, j'entends bien. Au contraire. C'est vraiment pour l'accès au contenu qui ça va être difficile. C'est donc comment présenter ce qu'on va faire. À l'université, dans la filière que j'ai suivie, évidemment, ce sont des séances avec beaucoup d'oralité. À moi, il m'importait de prendre des notes, mais quand il s'agissait d'adapter certaines choses comme les tables logiques, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'est penchée sur la question: comment faire les tables logiques pour quelqu'un qui ne voit pas? Il a cherché et on a utilisé ensemble le braille. Aurélie Basile a contribué aussi et on a rendu possible la possibilité de faire des tables de vérité. C'était pas une mince affaire au début pour moi de faire ces tables. Donc il y a une implication de la part des enseignants à certains moments pour permettre cette transmission qui est celle des connaissances et des savoirs, parce que les contenus sont parfois difficiles d'approche et d'accès.
Alors on approche de cette première partie de la journée. Juste peut-être une dernière réaction dans la salle, et puis ensuite je vous proposerai de décrire les différentes tables et de passer à la suite. Une proposition ? Alors il y en a deux, on fait deux.
Bonjour. Ma question s'adresse à Paul, qui a une connaissance fine et une expérience du système pédagogique français. Est-ce que sa présence dans les différentes classes, aux différents niveaux, a généré des innovations pédagogiques, des initiatives de la part de l'enseignant, des expériences de sensibilisation, de mise en condition commune?
Très bonne question. Je dirais que oui, dans un sens. Parce que donc quand je suis arrivé en fait à l'école primaire, en fait, c'est un sujet en fait qui peut prendre beaucoup de temps à expliquer. Quand je suis arrivé à l'école primaire, tous mes autres camarades, en fait, comme ils sont allés à l'école avec une personne handicapée, en fait, je pense que dès leur plus jeune âge, ça les a en fait ouverts déjà à la situation de handicap, que ce soit moi en déficience visuelle ou n'importe quel autre. Les personnes que j'ai rencontrées, enfin, les enseignants que j'ai eu à l'école primaire, en fait, elles avaient, ces personnes n'avaient jamais en fait eu d'élèves déficients visuels. Donc j'ai amené quelque chose. Après, je sais pas, moi je vous parle de ça, je viens de l'Allier, c'est peut-être dans mon école, dans les autres, il y a eu d'autres choses. Mais j'ai peut-être amené quelque chose dans cette école, parce que maintenant, je sais que l'enseignante que j'avais en CM1 et CM2, elle parle souvent de ses élèves, elle parle souvent à ses élèves de moi, de comment je faisais quand j'étais à ce moment-là en CM1, CM2. Il lui reste des cahiers que j'avais où j'avais écrit dedans. Il voit comment j'écrivais, comment je travaillais. Après, au collège et au lycée, au collège, j'ai mon grand frère qui est aussi atteint de déficience visuelle, la même que moi, sauf que lui, ça s'est déclaré au collège. Donc, beaucoup des professeurs du collège étaient déjà préparés, en fait. Donc, mais comme moi, ma déficience visuelle est quand même plus importante que celle de mon frère, toujours avec le même service, j'étais toujours accompagné. On a vraiment préparé au collège. Et puis en même temps, dès que je suis arrivé en sixième, je me suis présenté à ma classe. J'ai expliqué que j'avais une déficience visuelle, que j'avais des adaptations, que j'avais un appareil pour agrandir, que j'avais tout ça. Ensuite, je sais que au collège, du bouche à oreille entre tous les collégiens, ça s'est répandu. Les gens le savaient. Bon, ça n'empêche pas d'écouter de temps en temps quelques remarques désobligeantes, surtout au collège. Mais bon, ça, on n'y prête pas attention.
Voilà. C'est bon. Oui, Paul, je vais venir un peu à ton secours, en complément de ce que tu viens de dire plutôt. Olivier Paradis, je suis professeur spécialisé au Centre de rééducation pour déficients visuels. Le sujet que vous venez d'aborder, monsieur, est beaucoup plus large. On pourrait en parler pendant très longtemps. Ce qu'il faut retenir très simplement, c'est que le fait d'être en face d'un élève déficient visuel vous oblige à vous remettre en question tout le temps. Et même quand on est spécialisé, et c'est très motivant en même temps, il faut répondre sans arrêt. et je rebondirai sur ce que dit, a dit Laurence et ce qu'a dit Paul, c'est l'aspect humain qui est extrêmement important. Et on peut faire toutes les formations qu'on veut, il faut que l'enseignant qui soit derrière soit motivé. Si on a des enseignants qui passent pas les documents, si on a des enseignants qui oublient systématiquement de faire la photocopie agrandie, etc., on n'y arrive pas. Alors, on peut faire des discours, on peut faire de la formation, mais il y a aussi vraiment un côté humain extrêmement important. Alors, il y aura beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête là.
Merci pour cette intervention. Ce qui complète bien et puis amorce la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, parce que là, on a juste mis un pied dans l'école, on comprend que c'est vaste, et puis on va mettre un pied dans la culture, et là aussi, c'est extrêmement vaste. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de balayer ensemble les trois tables rondes qui vont commencer dans quelques instants, pour vous décrire un petit peu les différents sujets qui vont être abordés, et puis ce sera à vous de choisir dans quelle salle vous avez envie de vous rendre. Alors, donc il y aura trois salles successives qui se situent en fait dans ce bâtiment. Il suffit de prendre les escaliers qui montent en sortant, on va y aller tous ensemble. C'est soit au premier, soit au deuxième étage, vous allez voir, c'est assez facile de s'y rendre. La première table ronde, elle a été intitulée « Audiodescription », mais le sous-titre, il est peut-être plus réaliste par rapport à ce qui va être abordé, c'est « Comment rendre accessible le cinéma, le spectacle vivant et les illustrations fixes ?» Voilà un petit peu la problématique associée à cette première table ronde. Alors elle sera animée par Dominique Chevalier-Wixler, et puis elle aura à sa table différents intervenants qui viendront parce qu'ils pratiquent au quotidien ces adaptations-là, ou ils y réfléchissent, ou encore ils cherchent à diffuser ce type de contenu. Donc on aura Rachel Zatla, qui est médiatrice culturelle du Centre Lyrique Clermont-Auvergne, qui parlera un petit peu de son expérience ici à Clermont-Ferrand. Séverine Hamelin, qui est responsable des relations avec le public du Quai, et c'est un théâtre qui se situe à Angers, qui a un savoir-faire complémentaire et différent, donc on découvrira un petit peu les deux pratiques de ces lieux de culture. Pour continuer, on aura à cette table-là Patrick Saonit, qui est chef de projet audiovision et du livre parlé. Il vient de l'association Valentin Huy à Paris, et son service travaille au quotidien à l'adaptation des contenus, que ce soit, si je ne me trompe pas, à la fois du cinéma que du spectacle vivant. On aura aussi Stéphane Hadouche, qui est représentant de l'association Cinéfac. Avec lui, on abordera les problématiques de la chaîne de diffusion de ces contenus filmés, audio décrits. Comment est-ce que, quand on est diffuseur, à la fin, on est capable ou pas d'avoir accès à ce contenu? Ce qui est une problématique aussi, finalement, on s'en rendra compte, importante. Et puis, à cette table, il y aura Guy Coulongeon, qui est président et fondateur de l'association et compagnie Théâtre Livoirien, avec qui, eh bien, on pourra aborder la question du faire le théâtre ensemble et comment le rendre accessible. Donc ça, c'est une première table ronde. La deuxième, on l'a intitulée « Métiers du livre ». Alors, le sous-titre, il raconte quoi? Il raconte « Braille, contenu audio, pardon, révolution numérique, depuis le sur-mesure jusqu'à l'édition spécialisée, comment rendre les livres accessibles ?» C'est une problématique assez vaste et qui fait écho un petit peu aux questions scolaires qu'on a abordées tout à l'heure, mais pas que. Alors, à la table de Catherine Pinto pour échanger autour de ce sujet, il y aura Mireille Loureiro, qui est documentaliste du CRDV. Vous aurez aussi l'occasion d'entendre et d'échanger avec Françoise Fontaine-Martinelli, qui est responsable du pôle documentaire santé. Alors, c'est une mission transversale lecture handicap des bibliothèques universitaires, donc cette fois-ci du côté université. Valentin Maté, qui est un éditeur La Poule qui pond, un éditeur clermontois, qui a édité un livre braille et noir. Donc on rencontrera avec lui les problématiques de l'édition de contenu adapté. Catherine Huberti, qui probablement rejoindra la table dans le cours, qui elle, eh bien, avec la librairie sonore Le Chat Noir, propose du contenu édité, mais cette fois-ci audio, donc encore une alternative de diffusion. Et puis Jean-Louis Place, qui vient d'arriver au fond de la salle, voilà, qui est le président de la délégation Auvergne des JIAA, et puis qui lui apportera son témoignage en tant que consommateur et usager quotidien de ces contenus. Et puis la dernière table ronde, qui situera en salle 205 GV, elle concerne le patrimoine. La question, c'est architecture, musée, site touristique, quel dispositif pour accueillir les publics empêchés? Alors, ce sera moi qui l'animera, et puis à la table, on aura donc l'occasion de discuter avec Olivier Paradis, que vous venez d'entendre à l'instant, qui est professeur spécialisé au CRDV et président de l'association Braille Culture. On pourra aussi discuter ensemble à cette table avec Céline Françon, qui est médiatrice culturelle chargée de l'accessibilité au musée départemental de la céramique de Lezoux, qui a initié depuis le début un processus pour rendre accessible ce musée, et puis Claire Mock, qui est chargée de l'accessibilité au public en situation du handicap à Vulcania. Donc on verra un petit peu au fil de cette discussion comment on peut rendre accessible un site et comment est-ce qu'on réfléchit à rendre accessible à la fois le site et le contenu culturel associé. Voilà, et puis ben, ce que je vous propose, d'abord merci d'avoir assisté jusque-là, et puis ce que je vous propose, c'est de rejoindre les étages dans la salle qui vous intéressera.